Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. L'entité de la famille Moffitt. En 2022, Jessica Moffitt publie un long article sur Internet dans lequel elle révèle un terrible secret de famille. 7 ans auparavant, la fille de la famille Moffitt, devenue adulte, publie grâce au témoignage de sa mère Deborah un livre intitulé « Unwelcomed, the true story of the Moffitt family haunting ». Indésirable, la véritable histoire de la famille hantée Moffitt. La quatrième de couverture du livre est intrigante. Pendant plus de 6 ans, la famille Moffitt a été terrorisée par un démon venu du passé. Prétextant que Lee Moffitt lui avait été promise en sacrifice il y a des centaines d'années, l'entité était venue la chercher. Il n'y avait pas de refuge, il n'y avait pas d'endroit où fuir. La famille Moffitt n'avait qu'une seule option, survivre. Le récit est accompagné de plus d'une centaine de photos prises entre 1987 et 1992. Autant de preuves visant à démontrer la présence d'une véritable entité maléfique au sein de la maison familiale. Tout commence dans une maison de banlieue ordinaire, à Rancho Cucamonga, une ville du comté de San Bernardino en Californie, dominée par d'immenses collines. Un lieu où il fait bon vivre. Deborah Moffitt rencontre son futur mari, Bill Jr., au début des années 80. Tous deux filent le parfait amour. Ils sont animés par une passion commune pour le catch. Il n'y a qu'un seul point noir à cette histoire, la distance qui sépare les deux amoureux. Deborah déménage en Californie en 1981. Après leur mariage, ils emménagent dans la maison familiale, située à l'angle de l'avenue Archibald. Dans cette même rue se trouvent 2 autres maisons. L'une appartient à la grand-mère de Bill Jr., prénommée Dominica, et l'autre à ses parents. Bill Jr. a une maladie du cœur. Il ne peut pas vivre seul. Ses parents passent la plupart de leur temps sous le même toit. Deborah apprécie ses beaux-parents et ses réciproques. Peu après l'installation de la jeune femme, la famille Moffitt doit faire face à une nouvelle difficulté. La santé de Dominica décline. Ils engagent une aide-soignante, Juanita, originaire du Guatemala. La présence de cette jeune femme dans la maison va être source de rumeurs, surtout lorsque la hantise des Moffitt devient populaire. On raconte qu'elle pratique la sorcellerie. Juanita aurait eu recours à un rituel pour maintenir Dominica en vie. Le visa américain de la jeune femme dépendait de son travail auprès de la famille. Si la grand-mère décède, alors l'aide-soignante perd son visa et doit rentrer dans son pays. Le rituel de Juanita ne semble pas avoir fonctionné, puisque Dominica décède peu de temps après son arrivée dans la maison. Avant de partir, Juanita avertit la famille Moffitt qu'il ne faut surtout pas aller dans la maison de Dominica, car dedans réside le mal. La mère de Bill Jr., Lee, est superstitieuse. Elle écoute les conseils de l'aide-soignante à la lettre. Plus tard, lorsque Bill Sr. engage une équipe pour nettoyer la maison de sa mère, il découvre des bougies, des petits couteaux cassés, des chapelets et des restes d'animaux sacrifiés, dissimulés dans différents recoins. La famille Moffitt apprend que ces objets sont liés à une religion diasporique africaine. La Santeria, ou Regla Ocha, est généralement décrite comme une forme de syncrétisme entre éléments culturels et religieux africains, habituellement identifiés comme Yoruba et le catholicisme populaire diffusé à Cuba par la colonisation et l'évangélisation espagnole. Les années passent. La famille Moffitt finit par ne plus penser à cette histoire de sorcellerie. Lee Moffitt pense avoir conjuré le sort en se débarrassant de ses objets occultes. Mais en 1987, les membres de la famille sont de nouveau tourmentés. La maison de Dominica a été louée à un certain Danny, un homme d'affaires qui ne passait que très peu de temps chez lui. Il cherchait surtout un lieu où stocker ses collections d'objets liés à l'univers du sport, comme des cartes de baseball, des maillots d'équipe ou encore des figurines. Il s'était arrangé avec le propriétaire, Bill, pour que ce dernier passe de temps en temps voir si tout était en ordre. Un jour, Lee et Bill Moffitt font une découverte étonnante. Des objets de collection, habituellement bien disposés sur des étagères, se trouvent désormais sur le sol. Ils ne sont pas éparpillés comme si quelqu'un avait décidé de mettre du désordre. Les objets, principalement des figurines, sont placés de sorte à former un étrange symbole. Un triangle avec une queue en forme de S attachée à l'une des extrémités. Par la suite, d'autres objets, comme une montre ou un portefeuille, changent de pièce, alors que personne ne les a bougés. Danny finit par déménager du jour au lendemain. Après le départ de Danny, les phénomènes ont cessé. Quelques jours plus tard, la famille décide de nettoyer la maison pour accueillir de nouveaux locataires. Déborah remarque que des figurines de chiens, dont la tête était tournée vers l'extérieur, sont désormais tournées vers le mur. Un autre jour, elle est interpellée par un bruit dans la chambre à coucher. Une lampe de chevet vient de tomber subitement. Déborah Moffitt en est persuadée, il y a une présence invisible dans cette maison. Elle pense que les objets se déplacent tout seuls lorsque personne ne les regarde. Déborah commence à avoir peur. Son mari essaye de rationaliser. Avec ses problèmes cardiaques, il ne peut pas se permettre de céder à la panique. Les parents de Bill demeurent sceptiques. Ils sont bien plus préoccupés par la propreté de la maison et de trouver rapidement un nouveau locataire. Quelques mois plus tard, la maison est de nouveau louée par une dame prénommée Michelle. Elle y habite avec son compagnon, Tom. Pendant un temps, le couple n'a rien remarqué de particulier dans la maison. Mais un jour, Déborah est alertée par l'état de santé de la nouvelle locataire. Le visage de Michelle est couvert de bleu. La pauvre femme se confie à Déborah. Elle raconte que Tom a changé depuis qu'ils ont emménagé. Alors qu'ils entretenaient une bonne relation auparavant, Tom est maintenant devenu agressif et violent. Une semaine après cet incident, Michelle disparaît subitement. Tom informe les Moffitt qu'elle est partie et ne compte pas revenir, expliquant qu'elle aurait rompu et pris la fuite. Puis c'est au tour de Tom de disparaître subitement. Un détail interroge la famille. Il manque le tapis du salon. Cette découverte alimente de folles théories. On pense à un crime sordide. Plus tard, on découvrira le corps de Michelle enroulé dans le tapis du salon et abandonné dans une décharge. Aussi effrayés que bouleversés par cet enchaînement de situations, les Moffitt décident de vendre les trois propriétés de l'avenue Archibald et de déménager. Une solution radicale qui leur permettra peut-être de retrouver un peu de sérénité et surtout de rester éloignés de cette mystérieuse entité. Mais l'entité en question a également décidé de déménager et même de les accompagner durant l'emballage des cartons. Alors que Déborah et Lee sont en train de préparer leurs affaires, elles entendent un bruit semblable à une explosion provenant de la cuisine. Elle découvre que les placards ont été arrachés des murs. Puis, dans l'une des chambres, les fenêtres explosent de l'intérieur. Nous sommes en 1988. Les Moffitt profitent de leur nouvelle maison en toute tranquillité. Du moins, les deux premières semaines. Un jour, Bill Senior découvre une photo de famille retournée. Lee pense que c'est elle qui l'a renversée en faisant la poussière. Dès lors, les phénomènes paranormaux s'enchaînent sans relâche. Des cris terrifiants et lointains résonnent au milieu de la nuit. Des voix chuchotent les noms des membres de la famille dans l'obscurité. Et les systèmes d'alarme se déclenchent sans cause apparente. Des objets personnels, tels que des tableaux, des statues, des poupées et des livres, sont régulièrement retrouvés retournés. Lee découvre un message sur le miroir de la salle de bain écrit au savon. « Parlez-moi ». Initialement, elle pense à une farce, mais sa révélation provoque l'étonnement général. Déborah nettoie le message sur le miroir. Plus tard, elle en découvre un nouveau. Aucune échappatoire. Au fil des jours, l'entité communique de plus en plus avec la famille au travers de ses messages laissés sur le miroir. Certains d'entre eux donnent l'impression que l'entité est là pour protéger la famille. Les Moffitt sont désormais sous son emprise. Sans s'en rendre compte, ils obéissent à ses ordres. Certains mots sont effectivement bienveillants, puisque l'entité les avertit de quelques dangers comme un fil électrique défectueux qui pourrait déclencher un départ de feu, ou l'avertissement d'un possible accident sur la route. Lee commence à croire que le fantôme de sa sœur, qui se faisait appeler Nini, hante le miroir de la salle de bain. Un jour, elle voit son nom apparaître dessus. Mais bientôt, de nouveaux messages apparaissent, parfois insultants. L'entité semble prendre beaucoup de plaisir à les traiter d'imbéciles ou d'idiots. Un jour, Bill Père demande à l'entité de dire son nom. Le mot « prince » se matérialise sur le miroir. À ce moment-là, Lee veut solliciter une aide extérieure. Elle fait appel à un prêtre pour bénir la maison. Lorsque celui-ci arrive sur le perron, il refuse d'entrer. Il dit ressentir une présence très oppressante. Après un long moment d'hésitation, il asperge les murs extérieurs de la maison d'eau bénite. Cela ne fera qu'intensifier les phénomènes. Des messages menaçants commencent à apparaître, souhaitant la mort de l'hymophyte. La famille découvre également des tapis en lambeaux et le triangle avec la queue en S gravé sur les murs. D'autres marques étranges apparaissent, comme des pentagrammes et des croix inversées. L'autel de la chambre de Lee est vandalisé. Un soir, le matelas du couple est découvert en lambeaux. Il existe une photo de ce matelas. Elle témoigne d'une rare violence. Désormais, toute la famille abandonne le deuxième étage. Chaque montée d'escalier est accompagnée d'une atmosphère pesante et presque irrespirable. Deborah et Bill Jr. contactent plusieurs experts. Une équipe locale de médiums identifie l'entité comme ancienne et puissante, mais c'est la seule information obtenue. La situation devient grave. L'hymophyte est principalement visé par les attaques. L'entité lui lance tout un tas d'objets et de la nourriture. Un matin, un couteau est lancé près de la cuisse de Lee alors qu'elle était assise à la table de la cuisine. D'autres couteaux apparaissent ensuite dans des endroits où elle s'assoit ou se couche fréquemment. Chaises, oreillers, canapés et même son lit. Deborah, quant à elle, s'inquiète pour sa belle-mère et ne dort pas bien, redoutant chaque bruit dans la nuit. La terreur constante commence à affecter la santé mentale de tous. Tout au long de l'année 1988, l'entité trouve de nouvelles méthodes pour les terroriser. Des odeurs désagréables envahissent la maison, des bruits étranges résonnent dans les murs et des pas se font entendre au deuxième étage. Pendant un mois, des oiseaux noirs s'écrasent contre les fenêtres de la chambre à coucher, tandis que des rats envahissent le garde-manger. La famille pense de nouveau à déménager, mais elle comprend que l'entité les suivra ou que la famille puisse aller se réfugier. Lee s'isole dans le salon du rez-de-chaussée. Elle ne parle presque plus. Son mari est de plus en plus inquiet pour la santé mentale de sa femme. Deborah est terrorisée à l'idée que son mari puisse succomber à une attaque cardiaque à la suite d'une grande frayeur. La famille demeure dans l'attente du lever du jour, car les attaques sont plus intenses la nuit. Billy Jr. se confine dans la chambre principale. Deborah remarque qu'elle est la seule personne à ne pas subir ces attaques. La chose n'attaque jamais la famille dans une pièce en présence de Deborah. Elle reste auprès de sa belle-mère pour que cette dernière trouve un peu de repos. En décembre 1988, Deborah et Bill Jr. rencontrent Red Wing, une chamane amérindienne, à l'occasion d'un grand salon du paranormal. Elle se rend au domicile de la famille, accompagnée d'un autre chaman nommé Fire Panther. Ils font un rituel dans le salon, brûlant de la sauge et dispersant la fumée à travers l'étage. Ils font de même au grenier. Mais là, les deux chamans rencontrent une difficulté. La fumée refuse de rentrer dans la pièce. Ils décident alors de s'attaquer à l'entité directement dans le grenier. Cette nuit-là, l'entité apparaît pour la première fois à la famille. Le grenier grince et l'isolant en fibre de verre glisse le long du mur. Il se tord pour former un visage. Des pommettes et un menton apparaissent dans l'isolant, ainsi qu'une corne. Après le départ des deux chamans, la famille trouve un chercheur en paranormal du nom de Gary Kent. Ce dernier leur propose de rester dans la maison pour observer les phénomènes. En entrant dans la salle de bain, Gary demande à l'entité de se manifester. Dès lors, Gary devient sa nouvelle cible. Ses vêtements sont déchirés par une force invisible. Par le biais du miroir, elle se moque de lui. Gary quitte la maison, incapable d'aider l'hémophyte. Peu de temps après, de véritables experts en paranormal prennent les choses en main. Il s'agit de Lorraine et Ed Warren. Lorraine essaye de capter des signaux psychiques. Elle pense qu'un puissant démon ancien a pénétré leur demeure. Le soir, le couple de démonologues entame ce qu'ils appellent un rite de provocation. L'idée est de pousser l'entité à se manifester pour mieux la comprendre. Tous se rassemblent en forme de U dans le salon, pendant qu'Ed récite des prières d'ouverture. Ils ressentent tous une lourde présence entrer dans la pièce pendant la cérémonie. Soudain, Bill Senior se lève, émet un grognement animal et se dirige vers Ed en traînant la jambe comme s'il était blessé. Bill Senior finit par retrouver ses esprits. Pendant leur visite, Ed explique qu'il n'a aucun moyen de chasser l'entité et Lorraine pense que le démon est lié à Lee. Les Warren contactent un ami qui les met en relation avec une église épiscopale. Bill Senior exprime son désaccord face à l'intervention d'un prêtre épiscopalien dans leur maison. Il prévient Lee que l'église catholique l'excommuniera s'il décide d'écouter les conseils du couple d'experts Warren. Peut-être aurait-il dû les écouter, car plus le temps passe, plus l'entité se révèle dangereuse. Nous sommes en 1989. Le fils de Deborah et de Bill Moffitt est né. Il s'appelle Jamie. Un matin, Deborah se rend dans la salle de bain et découvre ces mots écrits sur le miroir. Lee mourra dans 10 jours. C'est la première menace spécifique de l'entité à laquelle elle est confrontée. Un jour avant l'échéance, la famille constate que Lee a des problèmes de respiration tôt le matin. Ils l'emmènent en urgence à l'hôpital, où les médecins diagnostiquent une pneumonie et une insuffisance cardiaque congestive. La même maladie dont souffre son fils. À vrai dire, il n'y a rien de surnaturel là-dedans, puisqu'il y a une explication scientifique à ce mal. Lee ne meurt pas. Elle est très faible, mais elle est bien prise en charge à l'hôpital. Ses proches alternent les visites pour lui tenir compagnie. Pendant son hospitalisation, la présence de l'entité ne dérange pas beaucoup les gens présents à la maison. Il y a quelques manifestations, mais rien d'exceptionnel. Lee finit par se sentir suffisamment bien pour rentrer. Elle raconte à Deborah qu'elle a été visitée par l'entité pendant son séjour à l'hôpital. Chaque fois qu'elle reprenait conscience dans sa chambre, elle apercevait une petite tache noire sur le plafond, se déplaçant jusqu'au lit. Lorsque cette tache approchait son lit, une ombre plus grande s'étendait vers elle. L'ombre avait fini par prendre l'apparence de sa mère Dominica. Les médecins annoncent que son rétablissement sera long. Lee doit vivre avec une bouteille d'oxygène. Une infirmière vient également lui apporter des soins à domicile. Une nuit, Deborah découvre sa belle-mère en détresse. Le tube de la bouteille d'oxygène a été débranché. Il n'est pas compliqué d'en deviner le responsable. Désormais, toute la famille se relaye pour surveiller Lee. Les descriptions de Lee sur la silhouette sombre et les manifestations menaçantes sont caractéristiques des expériences rapportées par ceux qui souffrent de paralysie du sommeil. Lee a traversé une période de stress intense, de problèmes de santé et de traumatismes, ce qui pourrait avoir exacerbé la probabilité d'en souffrir. Pour la famille Moffitt, l'explication est surnaturelle. Comment pourrait-il en être autrement? Un soir, Billy Senior est réveillé par une sorte de fer de lance qui s'était glissé le long de sa jambe alors qu'il dormait. Deborah s'est précipitée dans la salle de bain pour entrer en communication avec l'entité. Cependant, dès qu'elle a ouvert la porte, elle a réalisé que des messages avaient déjà été écrits sur le miroir, indiquant qu'un rituel impliquant du sang était nécessaire et mentionnant l'utilisation de la lance pour poignarder le cœur de son beau-père. Après ces événements, Deborah s'est rendue au musée d'histoire naturelle à Los Angeles, où des experts ont confirmé qu'il ressemblait à un outil rituel du Congo. Durant l'été 1989, un autre expert en paranormal ayant enquêté sur les phénomènes, le docteur Evelyn Paglini, suggère que si cette entité ne part pas, c'est parce qu'un membre de la famille lui a permis d'entrer dans la maison. L'histoire de fantôme vire à la paranoïa. Et pourtant, selon le récit du livre de Jessica Moffitt, le docteur Paglini semblait avoir raison. Deborah surprend une étrange conversation entre Billy Senior et l'entité, à travers le miroir de la salle de bain. Billy demandait à l'entité de tuer sa propre femme pour obtenir un héritage important. En 1992, Billy Senior, démasqué, a quitté la maison pour ne jamais réapparaître. Étrangement, les phénomènes paranormaux se sont estompés après son départ. Le livre qui relate cette incroyable affaire, Indésirable, la véritable histoire de la famille hantée Moffitt, a rencontré un franc succès, au point qu'une série horrifique va bientôt être proposée par une société de production audiovisuelle américaine Blumhouse Production. Alors, quel crédit peut-on apporter à cette histoire? Plusieurs éléments semblent avoir été complètement oubliés, comme le rituel de magie noire de Juanita avant le décès de la grand-mère Moffitt. L'histoire du fer de lance n'a pas fait l'objet d'une enquête plus approfondie. De plus, la famille Moffitt a vécu un stress considérable pendant de longues années, ce qui peut altérer la perception des événements et conduire à des hallucinations ou à une paranoïa collective. Bien qu'il existe plusieurs preuves matérielles, cette hantise est finalement une histoire de famille. Elle relate les difficultés que peuvent rencontrer ses membres, notamment sur le plan financier. Après tout, Billy Senior n'a-t-il pas essayé d'obtenir par la force l'héritage de ses beaux-parents ? Et si tout avait été monté de toutes pièces par le patriarche ?